VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Niger, des informations circulent depuis hier sur une vague d'arrestations dans les rangs des officiers de l'armée. On parle notamment de l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air sous la transition militaire du général Djibo Salou. D'autres précisions avec notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa.
C'est le site d'information Actu Niger qui a fait l'annonce. L'inspecteur général des armées et de la gendarmerie du Niger, le général Souleymane Salou, est depuis mardi matin interpellé par la gendarmerie. Le site dit ignorer les raisons et ajoute qu'avec le général Souleymane, d'autres officiers de l'armée nigérienne sont aussi interpellés. 48 heures après, l'information n'est démentie par aucune source officielle. Elle fait depuis lors le chou gras des internautes sur les réseaux sociaux notamment, d'aucuns avançant qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Souleymane Salou, général de l'armée de l'air, est un proche de l'ancien chef de l'État Djibo Salou, qui a renversé le 18 février 2010 le régime du président Tanja Mamadou. Abdelrazak Idrissa à Maradi pour VOA Afrique.
L'insécurité continue au Mali. Les autorités font état d'une attaque d'éléments armés dans la nuit de mardi à mercredi contre la localité de Bamba sur le fleuve Niger, dans le cercle de Bourem, province de Gao. Bilan, plusieurs militaires blessés. Par ailleurs, on en sait davantage maintenant sur l'attaque contre une position de l'armée malienne dimanche dernier dans la zone de Niono. Selon le site d'information Al Akhbar, basé dans la capitale mauritanienne Nouakchott, l'opération serait l'œuvre du groupe djihadiste en sardine du chef de guerre Iyad Ag Ali. À Dakar, au Sénégal, le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Habré a suspendu aujourd'hui ses activités jusqu'au 8 février, date à laquelle commenceront les plaidoiries. La cour a entendu hier le dernier témoin au procès, Eddy Sango.
Kagenget Bayeri Sangena, gendarme à la retraite, est la 93e et dernière personne à avoir témoigné devant les tribunaux depuis le début du procès le 20 juillet. Il a décrit M. Habré comme un homme qui contrôlait tout sous son régime. Sa déposition met fin à l'audition des témoins, experts et victimes, a déclaré Gberdao Gustave Kam, le juge burkinabé qui préside les chambres africaines extraordinaires. En détention depuis 2 ans et demi au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression durant son régime, de juin 1982 à décembre 1990, fait 40 000 morts. Habré risque la prison à perpétuité.
Au Nigeria, non lieu au tribunal d'Abuja aujourd'hui dans le procès du leader du mouvement indépendantiste Biafra, Nnamdi Kanu. Après que le parquet eut abandonné les accusations de conspiration et appartenance à une organisation illégale qui pesait contre lui. Nnamdi Kanu est un des fondateurs du groupe interdit Peuple indigène du Biafra et le directeur de Radio Biafra, considéré comme séditieuse par les autorités nigérianes. Son arrestation en octobre a provoqué une vague de protestations dans le sud-est du pays, où la sécession du Biafra à la fin des années 1960 avait entraîné un conflit sanglant ayant fait près d'1 million de morts, beaucoup victimes de la famine et des maladies. Nnamdi Kanu reste en détention. Il est aussi accusé notamment de terrorisme et doit comparaître demain devant un autre tribunal. Toujours au Nigeria, au moins 30 personnes tuées, une vingtaine blessées dans des attaques contre les villages Ouarara, Mangari et Boura dans le nord-est du pays. Des violences attribuées au groupe islamiste Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram toujours au Cameroun. Les autorités exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense pour lutter contre les islamistes nigérians. Ces groupes d'autodéfense jouent un rôle croissant dans la surveillance des mouvements d'individus suspects et l'interception des kamikazes. Manassé Abuya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala, explique l'engouement suscité par ces milices.
Depuis un bon bout de temps, on parvient quand même à détecter les bombes humaines, à les neutraliser, et ça a un avantage de minimiser les morts, le nombre de morts. Aujourd'hui, dans la partie nord du Cameroun, il n'y a plus d'activité. Donc, les populations n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. et sont naturellement plus intéressés à participer à ces groupes d'autodéfense qui leur permettent quand même de s'occuper et d'essayer de trouver les moyens de survie en s'impliquant aux côtés des forces de maintien de l'ordre à détecter les kamikazes, les bombes humaines. Donc, ça donnait de l'emploi de manière ponctuelle aux populations et ça rend quand même satisfaction aux autorités administratives qui trouvent des alliés susceptibles de les aider à contrer justement ces attaques venant d'un ennemi invisible, furtif, qui se cache aux frontières et attend le moment d'inattention pour frapper.
Manassé Abouya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun. En RCA, des réactions à Bangui au lendemain de la proclamation d'une nouvelle république du Logone dans le nord-est du pays par Noureddine Adam, le numéro 1 du FPRC, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique. Ce matin, les habitants du PK5, le grand quartier musulman de la capitale, ont marché pour protester contre ce projet et revendiquer en même temps le départ de certains membres du FPRC de PK5. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
C'est un véritable ras-le-bol exprimé par les habitants de PK5 venus remettre au responsable de la MINUSCA au siège de la mission onusienne un mémorandum à l'issue d'une marche pacifique. Sur des banderoles, les manifestants réclament le départ des principaux leaders du groupe armé responsable des violences qui ont émaillé le référendum constitutionnel du 13 décembre dans le PK5.
Liberté !
Scandant la liberté, les manifestants menacent de se mesurer à ces hommes en armes si les forces internationales ne prennent pas leurs responsabilités. Mohamed Fadoul Ali, responsable du groupe d'autodéfense de PK5.
Nous demandons à la force internationale d'arrêter ces extrémistes, ces ennemis de la paix. Au cas où la force internationale ne fera pas, nous allons les déloger avec nos vaillants FAKA de kilomètre 5. On va les déloger par la force.
Après la Renaissance, l'hymne national centrafricain chanté, les mécontents regagnent le PK5, preuve désormais d'une véritable tension dans l'air dans la capitale centrafricaine.
Liberté !
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde, au Yémen, un calme précaire ponctué d'incidents isolés règne aujourd'hui, deuxième jour de cessez-le-feu et de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU en Suisse. Jacques Aristide nous en dit plus.
Un rare échange de prisonniers de guerre pourrait intervenir aujourd'hui à la faveur d'une médiation tribale, d'après l'AFP. Les forces loyalistes et les rebelles chiites, houthis, gardaient leur position dans la province de Taiz et dans la région de Bab al-Mandeb, où des affrontements sporadiques étaient signalé selon des sources militaires pro-gouvernementales. La coalition arabe qui soutient le gouvernement a annoncé ce mercredi la mort d'un soldat saoudien dans la région de Najran. Malgré ces incidents, les belligérants ne semblaient pas remettre en cause la trêve de 7 jours décrétée hier à la demande du président Abd Rabo Mansour Hadi au moment où se poursuivaient des pourparlers de paix en Suisse loin des caméras. L'Arabie saoudite qui pilote la coalition au Yémen est désormais encline à favoriser un règlement politique de la crise.
Pour terminer, le secrétaire américain à la défense Ash Carter a souligné aujourd'hui à Bagdad la volonté des États-Unis et de leurs partenaires de la coalition antiterroriste d'accélérer leurs efforts pour vaincre le groupe État islamique. Le numéro 1 du Pentagone a tenu ses propos à l'issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement irakien Haider al-Abadi et le ministre irakien de la défense Khaled al-Obaidi. Idrissa Sedoudia.
Cette visite surprise de M. Carter entre dans le cadre d'une tournée visant à obtenir davantage d'aide dans la lutte contre les djihadistes. Le chef du Pentagone a dit avoir discuté avec ses interlocuteurs de l'importance de bâtir sur les acquis pour compléter la reprise de Ramadi et ensuite de Mossoul aussitôt que possible. Les États-Unis, a-t-il assuré, sont prêts à faire plus dans cette mission en coopération avec les forces de sécurité irakiennes. Quant au bureau du Premier ministre Abadi, il a annoncé que les discussions ont porté sur les moyens d'améliorer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'armement et de l'entraînement. M. Carter s'est également entretenu avec le général Sean McFarlane, chargé de la lutte contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Les États-Unis usent depuis août 2014 de frappes aériennes en appui aux forces irakiennes, mais écartent l'envoi éventuel de troupes terrestres. Mais les djihadistes continuent de contrôler de larges pans de territoire dans le nord et l'ouest de l'Irak, dont plusieurs grandes villes, et les tentatives de reprendre Mossoul et Ramadi ont été bloquées.
Merci de votre attention.
Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.